Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
J'ai eu l'agrément le 12 septembre 98, elle est née le 13.
Ouais. C'était un signe.
J'ai dit, elle est faite pour moi.
Il arrivait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Là, je crois que je suis devenue maman à ce moment-là.
Il y a une personne qui est venue à l'orphelinat qui me dit, Clément, tes parents arrivent. Je pense que je prenais ça pour comme si c'était un jeu, en fait. Et on m'a amené faire les vaccins, m'acheter des vêtements, avoir des chaussures comme ça, c'est une grande première pour moi.
On les coupe de leur culture, de leur alimentation.
Il y a les grandes questions sur comment se passe l'adolescence.
Elle avait 16 ans et ça s'est mal passé, en fait. Je l'ai vue se rouler par terre. Elle m'a dit, je suis dans le bus, est-ce que tu peux me donner l'adresse du tribunal parce que je veux aller leur dire que je ne veux plus être adoptée.
C'est pas mon bébé du ventre, mais c'est mon bébé de cœur.
C'est elle, ma maman, et c'est en aucun cas mes parents biologiques. Elle, c'est celle qui m'a élevée, qui m'a donné tout son amour et qui me le donne encore.
Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui se sont lancés dans une grande et très belle aventure, celle de l'adoption. Les mères et les enfants que je reçois aujourd'hui ont appris à s'apprivoiser et à s'aimer. Alors, ils vont nous faire partager leurs moments de bonheur, mais aussi leurs doutes et leurs difficultés, car c'est beaucoup plus tabou, mais c'est aussi ça, la réalité de l'adoption. Merci d'être à leur écoute et d'être présents au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Valérie, Maëlie, Marie-Céline, Clément, Monique. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de partager vos parcours bien remplis. Vous avez eu des hauts et des bas. Cette relation, parfois, s'est aussi transformée en échec. C'est important d'en parler avec l'éclairage de Fanny Cohen-Herlem qui est avec nous. Bonjour Fanny. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste justement d'adoption. Et vous allez nous aider à décrypter toutes ces histoires de vie. Voilà. Vous allez y arriver. Je n'ai aucun doute. Bonjour Jean-Philippe Doux.
Bonjour à tous.
On se retrouve tout à l'heure pour notre grande séquence questions-réponses parce qu'il y a beaucoup de questions autour de l'adoption. On l'imagine bien. Alors Valérie, vous avez 47 ans.
C'est ça.
Et vous êtes une toute jeune maman.
Tout à fait.
Toute jeune. Depuis combien de temps vous êtes devenue maman ?
10 mois.
10 mois ?
10 mois.
Très récent. Vous avez un fils qui a 11 ans.
C'est ça.
Quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois ?
J'ai rencontré pour la première fois le 13 décembre 2016.
Quand est-ce que vous avez eu l'envie d'adopter ? Comment elle est née, cette envie ?
Alors, j'ai toujours désiré être maman.
Oui.
Je me suis mariée, j'ai divorcé. Mmh. Et puis, le désir de maman était toujours là. Par contre, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup investie dans ma vie professionnelle.
Vous faisiez quoi comme travail ? Vous faites quoi comme travail ?
Je suis responsable d'une agence de voyage et je vends des voyages. Voilà.
D'accord.
Là, je viens d'accomplir le plus beau de ma vie.
Le plus grand et le plus beau voyage de votre vie. Donc, vous travaillez beaucoup.
Oui.
Et donc, pas vraiment...
Oui, pas vraiment le temps de se pencher sur les projets personnels. Et puis, le passage des 40 ans. C'est pas l'anniversaire que j'ai préféré. J'ai fait un petit bilan personnel. Niveau professionnel, tout allait bien. Personnel, il manquait quelque chose.
Mmh. Et vous étiez célibataire, en fait. Vous étiez séparés.
Exactement.
Séparés, ouais. Et là, vous êtes sentie en manque de quelque chose, qu'il manquait quelque chose à votre vie.
À ma vie. Et puis, j'ai commencé à me renseigner, mais en étant au départ pas du tout persuadée qu'en tant que célibataire, l'adoption puisse être une voie à emprunter. Et puis, j'ai eu un déclic le jour où j'ai vu un film qui s'appelle Oli Lola. Et en fait, dans ce film-là, il y avait une maman célibataire qui adoptait son enfant. Et c'était un film. Mais ça a une résonance. Et en me renseignant un petit peu plus sérieusement.
Alors, vous avez lancé les démarches ?
J'ai lancé les démarches.
Ça dure combien de temps ?
Il faut d'abord un agrément qui est délivré par le conseil départemental.
Ça dure combien de temps ?
Ça dure 9 mois. L'agrément.
Ah, le temps d'une grossesse.
C'est ça, c'est prédestiné.
D'accord.
Donc avec enquête sociale, psychologique.
C'est compliqué, c'est difficile, c'est une analyse de soi ou pas du tout ?
Alors, moi, j'ai pas trouvé ça difficile, ça permet de mieux se connaître. Et même si c'est difficile, c'est rien à côté de ce qui attend après. Donc c'était...
Ça vous prépare ?
Ça prépare. Ça prépare et ça permet de tester un peu la solidité du projet.
Qu'est-ce que vos proches pensaient de la solidité de votre projet?
Alors, les proches, il y en a certains que je n'ai pas mis au courant tout de suite. Notamment mes parents, je voulais
être sûre. Vous vouliez le garder pour vous? Vous vouliez l'annoncer?
Je voulais être sûre, déjà d'avoir l'agrément pour pas leur donner de fausses joies, en fait.
Pourquoi vous êtes tournée vers la Colombie?
Alors, c'est la Colombie qui m'a choisie, en fait.
C'est-à-dire?
Alors, quand on est célibataire, pour adopter, tous les pays n'acceptent pas les candidatures de célibataires. Donc, il y a peu de pays qui acceptent les candidatures de célibataires.
Et la Colombie en fait partie.
La Colombie en faisait partie. Et c'est en plus un pays, comme les autres pays d'Amérique latine, qui prépare, je trouve, très bien les enfants à l'adoption.
Ah.
Et je trouvais ça important.
Vous mettiez toutes vos chances de votre côté pour qu'ils soient bien préparés, que les choses se passent bien.
Alors, je ne dis pas que les autres préparent mal, mais c'était...
Il y avait votre instinct vous guidait vers la Colombie. Alors du coup, vous avez eu votre agrément à quel moment?
Alors je l'ai eu en septembre 2015. J'ai attendu un peu plus d'un an. Le 11 octobre 2016, le téléphone a sonné.
Alors le téléphone sonne, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors on me dit qu'il y a un petit enfant, un petit garçon qui m'attend en Colombie.
Ah, on vous dit direct comme ça?
Oui, c'est ça.
Et alors, c'est quoi, on vous dit quelque chose sur lui?
Alors, on me dit, on m'a donné, son prénom, on m'a donné un petit résumé global de sa personnalité. En plus, moi, j'étais en plein salon professionnel à l'autre bout de la France.
Au milieu du salon?
Oui, au milieu du salon, oui.
Mm. Mais qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
De toute façon, on décroche. Hein. Moi, quand on voit Agence française de l'adoption...
Vous décrochez.
Où qu'on soit. Donc... Voilà, ma directrice qui était avec moi a bien compris, à mon sourire, c'était important. J'étais autorisée forcément à prendre l'appel. Et puis, quelques heures plus tard, dans un voyage retour en TGV, j'ai reçu par mail la photo, la première photo.
Alors déjà, quand on vous dit, il y a un petit garçon qui vous attend à l'autre bout du monde.
Oui, c'est ça. Voilà, c'était lui.
Et c'est cette photo que vous recevez?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il est mignon.
Ouais.
Et alors, vous êtes dans le TGV?
Oui.
Vous ouvrez?
Désolée.
Mais non, mais je comprends. Voilà. C'est trop mignon, c'est hyper émouvant. Ouais. Et vous êtes dans le TGV?
Oui.
Vous agrandissez à mort?
Oui, j'agrandis à mort. Je pleure tout ce que je sais. Là, je crois que je suis devenue maman à ce moment-là. Voilà.
Quand vous voyez la photo? C'est-à-dire que quand vous voyez la photo, vous ressentez déjà de l'amour?
Oui.
C'est lui, quoi?
C'est lui.
Vous reconnaissez?
Oui.
C'est votre fils?
C'est ça.
Vous êtes déjà maman?
C'est ça.
Et alors après, ça s'enchaîne comment? Vous foncez dans un avion, vous allez le chercher?
Non, on pourrait, si je voulais, mais non, il y a quand même pas mal de démarches administratives à faire, que ce soit les vaccins pour partir en Colombie, parce que lui, il habitait en Amazonie. Donc,
tout était prêt à la maison pour lui déjà?
Pas tout à fait. Là, ça a vraiment précipité les choses. Mais j'avoue, je suis partie, tout n'était pas fini. Merci les amis, merci la famille.
Ils ont préparé sa chambre pendant que vous étiez là.
Oui, ils ont fini la préparation pendant que
j'étais partie. Et alors, entre le moment où vous recevez votre coup de fil et le moment où vous partez, il se passe combien de temps?
Deux mois, parce que ça passe super vite, en fait. Enfin, à la fois, ça passe vite, mais à la fois, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps, en fait. Pour
tout préparer. Et pendant ces 2 mois, vous êtes remplie de bonheur?
Ah, complètement. Complètement.
Pourtant, pour quelqu'un qui travaille dans les voyages, c'est facile d'organiser un voyage en Colombie?
Oui, alors c'est ce que j'ai appris. En fait, moi, je suis quelqu'un de très organisé. Effectivement, les voyages, pour moi, tout est minuté.
Ah oui?
Et en fait, là, il faut lâcher prise. Mais vraiment. Et c'est ce que mon avocate que j'ai pris en Colombie pour m'accompagner m'a dit tout de suite. En Colombie, il faut, faut s'adapter au temps colombien. Voilà.
Donc
maintenant,
le temps colombien
ne signifie pas
là.
Dans 2 minutes, par exemple. Ça peut être demain. C'est
qui n'est pas tout à fait
comme ici.
Il y a combien d'heures de vol?
11 heures.
Alors du coup, vous êtes arrivée là-bas et au bout de combien de temps vous avez pu rencontrer Camilo?
Alors en fait, je suis arrivée le 11 décembre et je l'ai rencontré 2 jours après, le 13 décembre. Le temps d'aller jusqu'en Amazonie, en fait.
Vous pouvez me raconter la première fois que vous l'avez vue?
Alors c'était 10h30 du matin. C'est ça. Dans une des salles de l'ICBF, qui est la protection sociale de l'enfance locale. On avait décoré la salle, les ballons, le gâteau. Et puis l'arrivée, avec un sourire jusqu'aux oreilles, avec sa grande pancarte, et mi maman, bienvenue à la Colombie, en français.
Ah.
Et c'était...
Moi, je suis bouleversée en voyant cette photo du regard que vous lui portez. Là,
Je crois que je l'ai pu quitter des yeux après.
Vous avez un coup de foudre ?
Ah oui.
C'est votre fils.
Ouais, ouais.
Je crois qu'on a des images de cette rencontre.
Ah oui.
C'est bon. On va les regarder.
Séverine, Véronique, Viviane. C'est génial. Emilia, ah, super. Bon.
Trop beau.
En fait, il connaissait.
Trop beau.
Il avait appris par cœur, en fait, les prénoms de tous les gens de ma famille et des amis proches. Et il me les a récités, voilà, comme
c'est ça. C'est ce qu'on voit là, ouais, il vous récite.
Ouais, c'est génial. C'était très, très émouvant, ouais. J'ai l'impression d'être dans une bulle, ouais. J'avais oublié complètement les gens autour, ouais. C'était...
Vous êtes resté combien de temps là-bas avant de pouvoir rentrer avec...
Un mois et demi, le temps de la procédure, déjà, d'adoption, parce que c'est... Voilà, il faut passer au tribunal devant un juge colombien. Et puis, on en a profité pour...
Pour faire connaissance.
Un petit peu aussi, son pays, parce qu'il ne connaissait pas. Donc ça, c'est la région du café, la vallée de Cocora. Lui connaissait pas le... Et puis moi, j'avais aussi envie de découvrir son pays, parce que...
Voilà, pour le comprendre, lui.
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Et alors, très vite, il parle. Comment vous comprenez, vous parlez...
Alors moi, j'avais pris 10 heures de cours d'espagnol avant de partir. Et j'avais une angoisse de ne pas pouvoir me faire comprendre, en fait. Et puis, en fait, on n'a pas du tout besoin de parler la même langue pour se comprendre. Et lui s'est très vite mis au français, de toute façon. Déjà en Colombie, il voulait... déjà commencé à apprendre le français. Et puis, en immersion, de toute façon, bon, je suis revenue, je parlais bien l'espagnol.
Vous aviez très envie de faire des pas l'un vers l'autre. Lui, il voulait apprendre votre langue et l'inverse. Puis, il est très câlin, non?
Oui.
Parce que je le trouve très
tactile. Les Colombiens
sont
très tactiles.
Ah, d'accord. Parce qu'il est dans les bras de maman tout de suite.
Tout
hein.
le temps. Tout le temps.
Et tout de suite, il vous a appelé maman?
Tout le temps, tout de suite, oui.
Tout de suite.
Directement.
Comment s'est passé le retour en France? C'était il y a quelques mois. Hein.
C'était ouais, le 19 janvier.
On a atterri
à Roissy. Il faisait moins 10.
Oh là, changement de climat.
Ah ouais, changement de climat. Bah, lui, il a eu un choc thermique. C'est parce qu'en fait, là où il habitait, il faisait entre 30 et 40 toute l'année. Et il n'avait jamais mis un gilet, un pantalon, un
blouson. Il s'est bien acclimaté
Au bout d'une semaine, il sortait dehors sans mettre son gilet. Donc oui, comme tous les enfants, il s'est très vite acclimaté.
Et ça lui a plu?
Oui.
Sa
nouvelle vie lui a plu, oui. Et puis quand on est arrivé à Roissy, c'était magique. J'avais ma famille qui m'attendait, donc mes parents, mon frère et ma belle-sœur. Et en fait, sitôt les portes coulissantes passaient, il m'a échappé et il s'est jeté dans les bras de mes parents. En fait, qu'il avait reconnu par rapport aux photos et aux vidéos qu'il avait vues.
Il avait vraiment été très préparé, en fait. Oui. On lui a tout expliqué. Il s'était approprié cette famille, la sienne d'ailleurs, avant même de vous rencontrer. C'est ça que vous nous parliez de la Colombie qui prépare bien les enfants.
Oui, tout à fait. C'était demandé d'envoyer des petites vidéos. Donc voilà, j'avais aussi filmé toutes les pièces de la maison. Et ça, c'était le premier déjeuner, après 11 heures de vol.
Et l'école, ça se passe comment?
Super. Super, il est rentré au mois de mars, il est arrivé le 19 janvier, il est rentré au mois de mars.
C'est le jour de la rentrée?
C'est le jour de la rentrée.
Ah bah la fameuse photo que tous les parents prennent.
C'est ça. Donc là c'était sa première rentrée, et puis alors moi aussi, ma première rentrée des classes. Et,
il est fan de foot alors?
Il est fan de foot.
Ah ouais, c'est vraiment...
Là c'est un Colombien, donc il est fan de foot et de...
Tous les Colombiens, c'est le pays du foot.
Oui, c'est... Okay.
Alors vous lui avez fait rencontrer un de ces héros de foot?
Ah oui, alors ça, c'est une histoire incroyable.
C'est quoi?
En fait, pendant que j'étais partie en Colombie, un de mes meilleurs amis, qui est fan de l'AS Monaco, a contacté le club, puisque à l'AS Monaco joue un joueur colombien très célèbre qui s'appelle Falcao. Et il a contacté le club pendant que j'étais partie en disant qu'une de ses amies était partie adopter un petit Colombien. Et il s'attendait à recevoir un maillot dédicacé peut-être ou un ballon. Et en fait, on a reçu plutôt un appel du club de Monaco qui a invité Camilo à passer un week-end à Monaco.
Trop bien.
Ouais.
On a des images là. Il a rencontré Falcao.
Il a rencontré Falcao.
Je ne sais pas du tout qui est ce monsieur, mais visiblement, il a beaucoup d'importance. On va regarder ces images de sa rencontre avec, avec monsieur Falcao.
Toujours la suerte. Con alegría. Con entusiasmo. Con interés. Con optimismo. Con un golazo. ¿De quién? De Mónaco.
Yo te vi cuando entré.
Oui. Moi, yo también.
¿Ya hablas francés?
Oui. Un poquito.
Un petit peu.
Oui. Cuando yo voy a ver a Falcao, mamá. Ella sabía antes.
¿Sí?
Que yo lo voy a ver a usted. Ella no me quería decir.
¿Sí?
Oui.
Muy bien. O sea, tengo una sorpresa para ti.
Oui. Moi, yo también.
¿Sí?
Oui.
¿Cuál? A ver, para Falcao, mi mejor jugador. Sí, y Mbappé, Lemar, Glick,
oui.
Camilo.
La Coupe.
Ay, gracias. Gracias. Yo tengo un regalo para ti.
Ah.
Mi camiseta.
A ver.
Oh.
Hey.
Merci.
Ce sont des belles images.
Ah ouais, c'était un immense cadeau de la part du club de Monaco. Parce que, et puis Falcao aussi, c'est un grand monsieur. Mm.
Et vous, Maïli, vous avez été adoptée à quel âge?
Un mois.
Un mois et oui. Trois semaines.
Ah. Un mois et trois semaines, soyons précis.
Un mois et trois semaines.
L'histoire, justement, Marie-Céline, de Valérie, ça résonne? Elle résonne en vous?
Tout à fait. C'est une belle histoire. Bon, moi, j'avais 48 ans quand j'ai adopté Maëlie.
Mère célibataire aussi?
Mère célibataire.
Mère célibataire aussi. Vous faisiez quoi dans la vie?
Sage-femme de surcroît.
Sage-femme.
Qui a mis beaucoup de bébés au monde.
Combien de bébés vous avez mis au monde?
À peu près un petit village de 3500, 4000 âmes.
Oh, d'accord.
Voilà. Et puis, bon, ben là, le temps passe aussi. La quarantaine, on la vit mal. Et on fait le bilan de sa vie. Et on se dit, c'est pas possible. C'est très frustrant de mettre des bébés. On a choisi cette profession parce qu'on aimait les enfants
et de ne pas en avoir soi-même.
J'avais envie d'avoir une belle famille. Et puis voilà, le temps passe et on travaille beaucoup aussi. On fait des gardes et des heures de garde. Le métier avant tout. Et après, on se retrouve seul, quoi.
Vers quel pays vous êtes tournée, vous?
Vers le Vietnam.
Et pourquoi le Vietnam?
Alors, pareil, parce que pas beaucoup de pays acceptent les célibataires.
Ouais.
Et j'avais eu la chance de faire un voyage d'agrément au Vietnam. Et j'avais des amis autour de moi qui avaient adopté. Donc ça m'avait déjà un petit peu
titillé.
Et au retour, quelques mois plus tard, j'ai fait une lettre de motivation. À l'époque, c'était la DAS, maintenant c'est la ZE, je crois.
Ouais.
Hein. Et j'avais fait une lettre de motivation. Et j'ai été tout de suite, on m'a répondu. Ils ont réuni les futurs parents adoptants. On nous a fait remplir une fiche. Et c'est vrai que de tout temps, je voulais... trois garçons, une fille, mais trois garçons d'abord. Et puis ma sœur a eu trois garçons. Oh, j'ai dit, j'ai trois neveux magnifiques, je vais mettre la croix sur fille. Alors elle me dit, écoutez, dans une semaine, je vais à la rencontre de parents qui vont abandonner une petite fille. Si ça ne vous dérange pas, mercredi prochain, dans une semaine, vous me rappelez.
Vous l'avez rappelé,
évidemment.
Et
donc, je l'ai rappelé.
Donc, c'est vous qui l'avez rappelé.
Ouais.
Et voilà, Maïli qui fait « et me voilà ».
Je l'ai rappelé. Elle me dit « elle est mignonne comme tout ».
Ce sont vos parents biologiques?
Voilà, ce sont ses parents biologiques.
D'accord.
Elle a eu 5 grossesses successives. C'était la 5e.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette photo?
J'ai un petit peu mal au cœur parce que j'ai l'impression que là, je les ai déjà oubliés en fait. J'ai l'impression sur cette photo que je suis déjà passée à autre chose et que eux non. Mais.
C'est la seule photo que vous ayez, Maïli?
Non, j'en ai plusieurs, mais oui, j'ai une photo avec une photo de ma famille avec mes parents et ma fratrie. Et oui, voilà. Ouais. Oui, j'ai des photos.
Ça s'est passé comment les premières nuits avec Maïli à la maison?
À la maison, au retour. Au retour, elle a été très surveillée de très très près. Les nuits étaient courtes pour moi parce que j'étais toujours à l'affût. Et puis, bon, quand on est du métier, il y a cette fameuse mort subite du nourrisson et je craignais évidemment pour elle.
C'est le faire part.
C'est le faire part.
De l'arrivée de Maïli.
Oui. Alors, elle est née le 13 septembre, le lendemain de mon agrément.
Ah.
Le lendemain, j'ai eu l'agrément le 12 septembre 98. Elle est née le 13.
Ouais. C'était un signe.
Et j'ai dit, elle est faite pour moi.
À quel âge elle a commencé? Vous avez commencé, Maïli, à vous poser des questions sur votre histoire?
Au début, je me posais pas la question.
Ouais.
Mais j'ai toujours dit que je l'avais toujours su.
Je l'ai toujours
parce que oui, ça n'a jamais été vraiment tabou en fait. Genre, je le savais depuis le début.
C'est assez bon ça.
Puis elle me parlait de cette histoire très vite et elle avait même acheté un livre qui racontait quasiment la même histoire que nous. Sauf que la petite était de Chine, mais du coup, quand elle me la lisait,
c'est le
elle
bébé
remplaçait.
Du bout du monde,
elle remplaçait la Chine avec le Vietnam. Donc du coup.
Votre histoire, vous la connaissiez parfaitement.
Je lui racontais, oui, tous les soirs, cette histoire.
Vous parlez, vous, Valérie, avec Camilo, de son histoire?
Oui, un petit peu. Mais c'est pareil, j'ai aussi acheté des livres.
Des livres.
En fait, pour lui, c'est encore un petit peu compliqué la lecture en français, mais je lui lis sur, justement, des livres sur les mamans, surtout quand il n'y a pas de papa, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est une question qu'il me pose de temps en temps. Pourquoi
et vous, est-ce que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé pendant 11 ans dans la vie de votre garçon? Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi vous qui avez envie de savoir son histoire.
Alors, je la connais, en fait. J'ai, dans le dossier en fait, je la connais, les grandes lignes. Et c'est sûr que c'est important de savoir, même si on n'en parle pas, il y a quelquefois des réactions qui me font dire, voilà, ça peut venir éventuellement aussi d'une partie de l'histoire.
Vous avez un peu les clés.
Oui, on a un peu les clés.
Et vous aussi, c'est important de connaître votre histoire, Maïli, pour mieux vous épanouir en tant que femme, pour comprendre vraiment d'où vous venez.
Ben voilà, j'ai besoin de savoir d'où je viens dès le début. Je pense que j'aurais pas réagi de la même manière si ma mère ne m'avait pas tout raconté directement. Après, certes, j'ai eu quelques questions. Au fur et à mesure du temps, par exemple au collège, où je commençais à avoir beaucoup plus les réactions des autres jeunes vis-à-vis de mes origines.
Qu'est-ce qu'ils disaient?
J'ai le droit un peu à tout. Retourne dans ton pays, sale chinoise, Shintok. Voilà. Puis au début, on se dit, on est jeune et on se découvre aussi, donc on se demande pourquoi nous. Puis après, on comprend qu'on est un peu différent. Et au fil du temps, on se dit, c'est bizarre quand même. Et après, je suis allée vers ma mère qui m'a un peu plus développé l'histoire que je connaissais déjà. Je savais que j'étais adoptée. Mais après, elle m'a montré des photos, m'a dit des dates, m'a dit les ressentis qu'elle a eus quand elle est venue m'adopter. Et je pense que j'en avais besoin pour ouvrir un peu mon esprit sur ce sujet-là.
Vous avez toutes vos réponses aujourd'hui ?
Beaucoup. Mais pas toutes, non.
C'est quoi ce qui vous titille encore?
On va essayer de les avoir.
On va essayer de les avoir, mais Est-ce qu'ils sont toujours vivants?
Vous savez pas aujourd'hui.
Non. Est-ce qu'ils m'ont oublié? Est-ce que... ou pas? Est-ce que... Plus des réponses envers eux que l'adoption en elle-même. L'adoption, je sais tout.
Vous ne pouvez pas, en fait, aujourd'hui savoir à distance, il n'y a personne qui peut donner qui peut vous dire si vos parents, ne serait-ce que ça, sont en vie, vos parents biologiques, pardon.
On pourrait faire des démarches parce que pendant quelques années, j'ai un couple d'hôteliers. Lui est français, marié à une Vietnamienne. Et par ce biais-là, j'ai pu envoyer de l'argent tous les trimestres pour scolariser les frères et sœurs de Mali, pour les aider. Voilà. Bon, après, il a fallu faire un choix. Il y avait le crédit de la maison, machin. Ouais. Il faut choisir à un moment donné. Je suis allée chercher Maïly, c'est pour lui offrir quand même aussi une vie.
Une vie, oui.
Et puis bon, je me suis dit, là, ils vont s'en sortir aussi. Voilà. C'est vrai, bon, c'est une famille pauvre. Le papa, il est pousse-pousse. Ouais. Là-bas.
Ouais. Vous comprenez aujourd'hui qu'elle ait besoin d'avoir plus de réponses, quelque chose qui ne vous blesse pas?
Ah oui, mais j'ai toujours été d'accord. Hein.
Elle m'a toujours supportée dans le fait que j'étais adoptée. Elle comprend mes réactions et elle m'en veut absolument pas. Elle sait que... Enfin, après, c'est
moi,
à moi
je l'accompagne.
Oui, voilà.
Je l'accompagne.
Vous envisagez d'y retourner?
Et puis moi, j'aime bien parce qu'elle verbalise tout. Elle n'a jamais gardé les choses vraiment pour elle.
Et ça, c'est rassurant pour une maman.
Voilà.
Vous envisagez d'y retourner?
Oui.
Toutes les deux?
L'année prochaine, oui.
L'année prochaine.
C'est un voyage qui se prépare?
Oui, à l'avance, il va falloir le préparer parce que comme elle fait des études d'autre part et qu'elle a des stages à faire l'année prochaine, 4 mois de stage, donc il va falloir composer. Et on préfère peut-être les 15 jours de Noël. Et je vais vous dire pourquoi aussi, parce que la remise officielle de Maïly par... la justice, le tribunal vietnamien. J'ai été maman, véritablement, le 24 décembre 98.
Quel beau cadeau!
Ça a été mon plus beau cadeau de Noël.
Ouais.
Voilà.
Vous n'avez pas peur qu'elle se détache de vous? Ça ne fait pas partie des angoisses?
Non. Non.
Non, après, elle sait que c'est ma maman, quoi.
Pardon.
C'est elle, ma maman, et c'est en aucun cas mes parents biologiques. Mes parents biologiques, ce que j'ai en rapport avec eux, c'est seulement le sang. C'est ce que je dis. Et mes origines, c'est tout. C'est celle qui m'a élevée, qui m'a donné tout son amour et qui me le donne encore. Voilà.
Comme je lui dis, c'est pas mon bébé du ventre, mais c'est mon bébé de cœur. Mais dans certaines occasions, quand je l'ai perdu dans certains grands magasins ou autres, c'est la panique viscéralement. Il y a le cœur, il y a le ventre qui fait mal. Voilà, c'était mon bébé quand même, quelque part.
Fanny, il y a un âge pour dire à un enfant qu'il a été adopté. Faut-il l'annoncer? Faut-il faire grandir cet enfant avec cette information dès le départ? Qu'en pensez-vous?
Oui, moi, je pense qu'il faut le dire tout de suite. De toute façon, on se leurre si on pense que les enfants ne le savent pas. C'est-à-dire qu'un bébé, même tout petit, comme vous l'étiez, c'est bien qu'il est passé de certaines mains dans d'autres mains et que tout change. C'est-à-dire qu'il n'entend pas la même voix, il n'entend pas la même musicalité de la voix, justement, des paroles. Il ne va pas sentir les mêmes odeurs, il ne va pas voir les mêmes personnes. Donc, l'enfant, il sait.
Son corps le sait.
Son corps le sait. Oui, effectivement, la mémoire corporelle est très, très importante. Donc, les enfants le savent. Et ce qui est important, et c'est ce que vous avez fait, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce qui leur arrive. Donc, on le dit d'emblée. Et puis, quand ils sont grands, ils le savent déjà.
C'est ça. Donc, c'est pas tabou, en fait. Ça ne doit pas être un tabou.
Non, surtout pas.
Non. Moi, j'en parlais quand je la longeais.
Voilà.
Tout à fait. Bébé à Saïgon, je lui parlais déjà.
Vous lui expliquiez
que j'étais
déjà
venue spécialement
pour la chercher.
Et qu'on est allé à deux trois reprises. Je suis allée à la rencontre des parents parce que pour les officiels, il fallait des papiers. Puis on se rencontrait. Bon, c'est comme ça que j'ai pris des photos pour avoir voilà. Hein, donc j'ai eu parlé de tout ça en l'allongeant oui. à Saïgon.
Je ne me rappelle pas, mais ça a marché. du coup.
oui.
Clément, vous comprenez ce besoin de retrouver ses parents biologiques? C'est quelque chose que vous avez connu aussi, vous?
Moi, j'ai connu ma mère, en tout cas, biologique. Et pas mon père biologique. Et je veux pas, en fait, je veux pas savoir du côté de mon père. Parce que moi, j'estime que quand quelqu'un fait des enfants, il s'en occupe jusqu'au bout. Et là, ça me donne pas envie du tout de savoir qui c'est. Ce qui m'importe maintenant, c'est... j'estime que le père adoptif, c'est mon seul père que j'aurai pas, en fait.
C'est comme Camilo, vous avez été adopté, vous étiez déjà grand. Vous aviez
8 ans, oui.
8 ans, c'est ouais. ça ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui. Monique, vous aussi, c'est un peu le même
c'est
profil.
C'est un petit peu le même parcours, même chose.
Vous étiez mère célibataire aussi?
Non, moi j'étais mariée et même chose, le travail, tous les deux, une maison à rénover, enfin très pris. J'avais la chance d'être enseignante, d'être entourée d'enfants, donc peut-être que ça me manquait.
Ah, c'est drôle, cette similitude de parcours.
Je ne peux pas dire. Et puis, la maison était toujours pleine d'enfants, les neveux, les voisins. Voilà, il y avait toujours du monde. Puis, déjà, j'ai assisté à l'adoption de ma filleule qui arrivait de Corée, qui était une enfant adoptée.
Ah!
Donc,
c'est quelque chose qui vous avait déjà...
Oui, les parents avaient eu la très bonne idée d'emmener le parrain et la marraine à la Roissy pour chercher l'enfant, puisqu'on n'est pas allé, ils n'étaient pas allés en Corée. Et donc, je faisais partie de l'expédition et je me suis souvenue, mais vraiment presque, je ne vais pas dire à la minute, mais pas loin de cette journée. Elle est restée
gravée
dans ma mémoire. Et je lui avais dit, si un jour j'ai un enfant, il arrivera comme ça. Je sais pas, d'ailleurs.
Et Clément d'ailleurs. Est arrivé aussi.
Voilà,
vous vous souvenez Clément la première fois que vous l'avez vu?
Alors lui, on est allé au Cameroun le rencontrer, par contre. On a eu la chance de... Bah, le voilà, d'ailleurs.
Voilà Clément.
Le voilà. Qui ne savait pas, hein, tu savais pas du tout pourquoi tu faisais cette photo. Hein, parce que contrairement à vous, on nous a pas du tout expliqué, on lui a pas du tout expliqué qu'il allait être adopté. Donc il était un petit peu perdu.
Et qu'est-ce que vous aviez dans la tête alors Clément à 7 ans? On vous explique pas du tout.
Pas vraiment, moi je pense que je prenais ça pour comme si c'était un jeu en fait. Et on m'amenait faire des photos, faire les vaccins, m'acheter des vêtements. Et tout ça c'était tout nouveau. Donc avoir des chaussures comme ça c'était c'est une grande première pour moi.
Donc, t'avais connu que les tongs.
Les tongs, donc là c'était vraiment. Qu'est-ce qui m'arrive donc,
On vous a pas dit que vous alliez rencontrer une famille avec qui vous alliez partir en France? Et du coup, quand vous avez rencontré Monique, vous vous êtes dit c'est qui celle-là?
Je pense qu'on avait dû te préparer un petit peu parce que t'es venu vers nous, vers papa et moi. T'es venu vers
nous. Parce qu'il y a un moment, on m'a dit quand. Il y a une personne qui est venue à l'orphelinat qui me dit Clément, tes parents arrivent. J'allais vite me changer, me préparer, j'arrivais...
Sans savoir
qui exactement...
Vous étiez content, par contre.
C'est ça.
Ouais,
c'est
vous étiez heureux.
Donc, ouais.
Et quand vous avez compris que vous alliez repartir avec eux, ça a été un choc ou c'était la continuité de...
Même pas, parce que quand j'ai pris l'avion, je me dis, c'est cool, je prends l'avion, je les vois dans le ciel voler. Là,
vous saviez où vous alliez?
Pas du tout, non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Un petit bonhomme, quoi, qui se pose pas trop de questions et qui vit.
Je sais pas, 8 ans, mais j'en avais 20, donc je prends l'avion comme tout le monde, donc c'était très drôle.
Il s'est tout de suite adapté, Clément, et sa nouvelle
très
vie.
Bien. Très bien. Ah oui, vraiment sans problème.
L'école, pareil, comme Camilo, très bien.
Tout. C'était vraiment très facile, quoi. Et au bout de 3 semaines, dans la maison, il y avait un lave-vaisselle. Donc, il y avait le lave-vaisselle un peu partout. Il y avait des lave-vaisselles. Et mon mari allait en saison dans une maison où il n'y avait pas de lave-vaisselle. Et il a ouvert sous l'évier. Il m'a dit, mais il est où le lave-vaisselle? Comme s'il y en avait dans toutes les maisons, alors qu'il n'en avait jamais vu avant. Ben, je dis, il est là.
Et ça s'est tellement bien passé que vous avez voulu renouveler l'expérience.
Et voilà, on a voulu renouveler l'expérience. Et
donc, nouvel agrément que vous obtenez.
Qu'on obtient et on retourne au Cameroun, puisqu'on connaissait l'orphelinat de
vous. Oui, donc ça vous rassurait de refaire un petit peu. Voilà, puis ça s'était tellement bien passé avec Clément.
Clément connaissait aussi des enfants qui étaient à l'orphelinat, donc il pouvait aussi retrouver quelqu'un qu'il connaissait. Ça a été le cas. Mais on nous a proposé une jeune fille qui avait 13 ans. Alors que dans notre esprit, on aurait souhaité un enfant plus jeune que Clément, de façon à ce qu'il reste l'aîné. La religieuse nous a proposé, on n'allait pas dire, ben non, on ne veut pas de celui-là. Voilà, on a pris...
Et on vous a proposé donc cette... Enfin, vous a
cette,
proposé,
cette jeune fille, oui, qui avait 13 ans à l'époque. Donc on a commencé, on a obtenu l'agrément et puis a commencé à faire les démarches. Entre-temps, mon mari est tombé malade. Donc, il est décédé en février 2005. Donc, j'ai continué
toute seule
en me disant, de toute façon, cette jeune fille, elle attend de l'autre côté parce qu'elle, elle espérait venir avec nous.
Oui, vous avez voulu aller au bout de cet engagement, même auprès de votre mari.
Au bout d'engagement, voilà, puisqu'on l'avait pris ensemble, et, enfin, tous les trois, je veux dire, et même tous les quatre, puisque Clément était partie prenante aussi. Donc, ça a été compliqué de la faire venir. On est retourné la voir 15 jours. On a passé 15 jours avec elle en 2005, puis en 2006. Et j'ai réussi à la faire venir pour les vacances de Noël en décembre 2006, en disant il faut qu'elle voie un petit peu où elle va arriver, parce que 2006, elle avait déjà 15 ans. Donc, c'est plus non plus un enfant, ça, c'est une jeune fille. Donc, je voulais qu'elle voie si... Elle avait envie aussi de former une famille avec nous ou pas.
Et alors ?
Tout s'est bien passé à Noël. Donc j'ai réussi à avoir à nouveau un visa provisoire en juillet 2007. Donc là, elle venait pour un an. Et puis, bon, là, je ne sais pas ce qui avait changé en nous, en elle, je ne sais pas. Elle avait 16 ans quand même. Et ça s'est mal passé, en fait. Quoi.
Alors ça veut dire quoi, mal passé ?
Mal passé parce que elle restait très attachée au Cameroun et ça peut se comprendre. Elle avait quand même une grande partie de sa vie là-bas. Hein, donc,
tous ses souvenirs, voilà, ses amis.
Donc elle était très souvent en train de téléphoner. J'ai eu des notes un peu faramineuses de téléphone, environ 7 000 euros pour une année.
7 000 euros?
Oui, bon, je ne regrette pas ça parce que c'est pas ça qui est important. Je pouvais le faire, donc c'est pas.
Mais ce qui prouve à quel point le lien était fort et à quel point.
Et ça peut se comprendre.
Et elle était comment avec Clément? Elle se comportait comment avec Clément? Clément.
C'était pas facile.
Non, c'est surtout quand on est arrivé, j'ai fait en sorte qu'elle se sente à l'aise à la maison, justement.
Vous étiez content de l'arrivée de cette sœur?
Oui, moi j'étais content, très content justement, parce qu'en plus au départ on m'annonçait quand je suis arrivé, on m'a annoncé que j'étais un fils unique, et là de pouvoir être plusieurs dans la maison, c'était moi j'étais content de.
Oui, c'est ça, vous alliez former une fratrie.
Peu importe la personne, donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'elles sont à l'aise, tout ça. Donc,
et vous avez compris très vite que ça marcherait pas?
Ouais. Donc moi, j'étais jeune, donc je ne voulais pas faire trop de vagues non plus à la maison. Donc,
j'avais voulu faire trop de vagues.
Je restais tranquille, donc je savais que je ne pourrais pas en supporter plus, en fait. Donc, ça, c'était sûr.
Donc, ouais. Quand vous dites que ça se passait mal, j'ai juste besoin d'essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'elle était désagréable, il y avait des accès de chagrin parce qu'elle n'était pas chez elle, ce qu'elle considérait comme chez elle. Elle était agressive. Qu'est-ce qui se passait mal?
Pas à ce point-là, mais ça pouvait être, si je lui demandais de faire la cuisine, de jeter son téléphone par terre et de le casser. Je l'ai vu se rouler par terre, quelquefois. Quoi.
Oui, des crises de...
Jeter sa valise par-dessus le portail parce que je ne voulais pas qu'elle quitte la maison, parce qu'elle disait « je veux partir ». En fait, c'était ça. C'était « je veux rentrer chez moi ». Dès que ça n'allait pas, c'était « je veux rentrer ».
Elle était en rejet, en fait, de cette adoption, elle.
Certainement, parce qu'un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit « je suis dans le bus, est-ce que tu peux me donner l'adresse du tribunal ?» Parce que je veux aller leur dire que je ne veux plus être adoptée.
Pour vous, c'était évidemment insupportable. Fanny, ça arrive, ça aussi.
Oui, ça arrive, mais c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe quel enfant, c'est pas dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que là, si je peux me permettre d'en dire quelque chose, je pense qu'on vous a proposé une jeune fille alors que vous vouliez une petite fille ou un enfant plus jeune.
Plus jeune que Clément.
On vous a en quelque sorte forcé la main. Alors moi, je comprends très bien votre idée de « on ne choisit pas son enfant, donc on prend celui-là », mais en fait, non. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une protection plus grande à la fois pour les enfants qui sont adoptables et pour les personnes qui viennent les adopter. C'est-à-dire que dans l'agrément, il y a une notice qui dit l'âge de l'enfant. Une tranche d'âge. Et normalement, on ne doit pas proposer au candidat un enfant qui est plus grand ou plus petit que la tranche d'âge qu'ils ont définie. Mmh. Parce que c'est l'âge avec lequel ils se sentent le mieux. Et du coup, ils sont préparés à recevoir un enfant oui. de cet âge-là. Et pour cette jeune fille, je pense que déjà 13 ans, ce n'est pas évident. Il y a effectivement, comme vous le disiez, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'attaches là où elle était. Elle n'a probablement pas été préparée du tout. On a pu lui dire, comme je l'ai déjà entendu, tu vas aller en France, tu vas aller dans un endroit avec des gens qui vont te donner tout ce qui te manque et ce que tu n'as pas ici. Et donc, ça donne des enfants qui, j'ai envie de dire, légitimement, sont très exigeants.
Oui, c'était ça.
Et je crois que c'est vraiment une rencontre qui ne s'est pas faite, certes, mais ça, c'est ouais. des choses très individuelles, hein, ça ne oui, se arrive, commande ouais. pas. Mais surtout, une impréparation des deux côtés et quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu.
À quel moment vous allez prendre la décision, vous? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un déclic qui fait qu'à un moment, vous dites stop, en fait, ça ne marche pas?
Il y avait une très grande fatigue, enfin usure ouais, pour nerveuse de tous les côtés, parce qu'elle était malheureuse aussi, elle. Hein.
Oui, ça va dans les deux
côtés. On était tous malheureux, donc c'était plus possible de continuer comme ça.
Et Clément allait être malheureux, et ça c'était dur, c'est dur pour vous.
Tout le monde dans la maison. Et un jour, elle m'a dit, au Cameroun, je n'avais pas tout ce que j'ai en France, mais j'étais heureuse. Ici, j'ai tout, mais je ne suis pas heureuse.
Bon. Ouais, c'est clair.
Donc à partir de là, il n'y avait plus trop de questions à se poser, si ce n'est que se dire ben, on a raté quelque chose. Quoi. Mais
ça a duré combien de temps? Elle est restée combien de temps chez vous?
Que de continuer absolument et ouais. d'aller dans le mur. Quoi.
Elle est restée combien de
elle
temps?
Elle est restée un
an. Un an ah ouais. Et alors, vous avez pris la décision. Quelle décision vous avez prise?
Ben, j'ai pris la décision de prendre un billet. Enfin, j'ai été encouragée, si je puis dire, parce que j'étais forcément dans l'hésitation, je fais quoi? Et mon directeur d'école, enfin j'étais enseignante, m'a dit, écoute, tu peux pas rester comme ça, on voit que tu es en train de dépérir, que Clément, les professeurs ne comprenaient plus son attitude, ils étaient complètement éteints à l'école. Donc il me dit, il faut que tu fasses quelque chose. Quoi. Je dis, la seule chose que je peux faire, c'est pas la renvoyer, mais la faire retourner dans le pays où il y a des gens qui l'aime, puisque c'est comme ça qu'elle définissait le pays de...
Et dans ce cas-là, on annule l'adoption? Ça se passe comment?
Non, mais l'adoption n'était pas prononcée.
L'adoption n'était pas prononcée.
Non. Donc, elle est retournée, j'ai pris un billet, elle est retournée. Je savais qu'en plus, elle allait dans une famille qui avait déjà accueilli son frère et qui l'a accueillait, elle, quand elle était en vacances de l'orphelinat, on va dire, parce qu'il y avait des vacances à l'orphelinat. Donc, une famille qui, elle, l'avait recueillie quand elle était toute petite, la famille qui l'avait confiée à l'orphelinat, d'ailleurs, parce que c'était pas sa famille biologique, mais une famille d'accueil. Donc, je savais qu'elle retournait là et je... Donc j'ai écrit à la dame, je lui ai bien expliqué la situation. Et puis après, ben, j'ai assumé financièrement de l'autre côté ses études pour qu'elle puisse aller jusqu'à son baccalauréat. Quoi.
Ça a dû être très dur. Ça a dû être très dur pour vous parce que j'imagine qu'en tant que mère adoptive, on se dit à un moment, est-ce que c'est une épreuve de la vie que je dois traverser pour avoir vraiment le droit d'être sa maman? Est-ce que c'est une épreuve qu'elle me fait traverser pour voir si je suis digne d'être
oui,
sa
bien
mère
sûr, j'ai, doit, j'étais j'imagine dans, que... Bien sûr que je me posais ce genre de questions en me disant, peut-être qu'elle m'en fait voir, là, justement, pour voir jusqu'où je...
Je suis capable d'aller, si je l'aime vraiment, si oui, je veux ça, vraiment c'est elle. Ça. C'est difficile, hein, et prendre cette décision de renoncer a dû être terrible.
Ça n'a pas été facile du tout, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin, voilà.
Comment vous lui avez annoncé?
Ben, je lui ai dit, hein, parce que les crises devenaient vraiment, étaient pratiquement quotidiennes à ce moment-là, quoi. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai pris la décision, tu vas rentrer au Cameroun. Ce sera.
Elle a été soulagée?
Alors, peut-être, certainement d'une façon, elle était soulagée. D'une autre, elle voyait ce qu'elle pouvait perdre, si vous voulez. Et donc, parce qu'elle me dit, oui, mais je pourrais rentrer comme ça pour les vacances et revenir, et après j'irai en pension, quoi. Ouais. Bah, j'ai dit non, l'idée c'était de former une famille, ouais. C'était pas d'aller en pension, quoi. Donc,
voilà. Fanny, comment vous réagissez à cette histoire? Ça arrive aussi, en effet.
Ça arrive, je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que ça met les gens, je dirais, les parents et les enfants dans des situations hyper compliquées.
Extrêmement
culpabilisantes. Le fait que les règles n'aient pas été réellement suivies. Je pense que le juridique, on s'en plaint toujours beaucoup. C'est long, l'agrément. Il y a un processus très long, mais vous le savez très bien.
Mais en fait, c'est nécessaire.
Ça protège. Et je dirais, la convention de la haie, si je peux juste en dire un mot, comme ça, c'est une convention qui protège les parents adoptifs, les parents de naissance et les enfants, parce qu'il y a des règles. Alors, bien sûr, ça prolonge le processus, mais au moins, ça donne un cadre. Et ce qui fait qu'on ne peut pas vous proposer un enfant de 13 ans quand vous avez décidé d'adopter un enfant de 8 ans. Même si c'est terrible pour l'enfant de 13 ans, mais il y aura quelqu'un qui va avoir envie de l'adopter, cet enfant de 13 ans.
Oui, je comprends. Et du coup, ça a créé chez vous des angoisses, Clément. Je me demande jusqu'à quel point vous n'êtes pas dit, oh là là, en fait, on peut repartir dans son pays, ou pas du tout, vous étiez passé à autre chose.
Oh, il était trop bien.
T'as eu peur que je te renvoie ou pas?
Non, de toute façon, même moi, je me souviens que j'avais fait la même crise un peu. J'ai dit à mes parents que je vais faire ma valise, je vais partir. Ah
oui, ça c'était dans les tout premiers temps où tu étais à la maison, dès qu'on lui faisait une remarque qui le blessait un petit peu, ou je sais pas, enfin, il s'attendait pas à être... Quelquefois, mon mari avait une grosse voix, donc il faisait sa valise et puis il descendait l'escalier.
Comme tous les enfants qui décident de partir de la maison, c'était plus classique.
Tu vas où ? Je vais chez Alain et Christiane, c'était à 500 mètres de la maison. C'était chez sa marraine, en fait.
Et puis il se retourne pour voir si vous suivez ou...
Oui, c'est ça. Il vous a fait ça aussi ?
Oui, moi, il m'a fait ça aussi.
Ah, il faisait sa valise.
C'est vrai ?
J'en ai marre. Et puis, et si je réagis pas ? Bon, maman, j'en ai marre.
Ça vous blesse ?
Alors, pour être tout à fait honnête, la première fois, oui. Parce que...
Vous dites, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Il ne se sent pas bien.
Ouais. C'est compliqué fait, ça reste de prendre du recul à chaque... voilà, puis ils savent bien le dire exactement au moment où il faut. Et puis, en fait, voilà, après, c'est un test. C'est un jeu.
Façon de voir si vous tenez à lui.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Sauf que moi, il est un peu boudeur aussi, de temps en temps. Donc, il est un petit peu susceptible aussi.
On arrive à se comporter totalement normalement, où on prend un peu des gants, vous qui êtes au tout début de ce parcours d'adoption.
Alors, moi, je me souviens des formations que j'ai eues quand on fait le parcours de l'adoption, maintenant, en tout cas, je ne sais pas si c'était le cas avant, mais maintenant, il y a des formations, on apprend à décrypter les... et il faut, en général, faire très attention à ce qu'on dit, à prendre du recul, prendre du temps. Non, c'est pas... Enfin...
ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, c'est... voilà, c'est au moment de se laver les dents, et c'est tout de suite, et il faut réagir tout de suite. Donc, je crois qu'on fait tous des erreurs. Enfin, voilà, moi, la première, moi, j'en fais. Je lui ai dit, il n'y a pas si longtemps, voilà, je ne suis pas parfaite. Lui non plus, donc ça tombe bien. Et voilà. Mais en fait, on s'est dit, nous, dès le départ, je me souviens, c'est lui qui me l'a dit, même en Colombie, on forme une équipe, en fait.
On va y arriver ensemble.
Voilà, c'est exactement ça.
On va y arriver ensemble.
C'est exactement ça. Ouais. C'est mignon, hein. Il avait compris, je suis sûre que, de toute façon, il avait compris des choses avant moi.
Elle a cherché à reprendre contact avec vous plus tard, cette jeune fille dont vous nous avez parlé.
Oui, en 2015, par le biais de Facebook, en fait. Quand je suis allée je me suis inscrite, on va dire, sur Facebook, elle a vu mon profil et elle m'a demandé comme amie. Bon, je me suis dit, ça n'a pas trop de sens, quoi. Non, enfin, je sais pas, ça en avait peut-être un pour elle, sûrement même, mais moi, je voyais pas... J'avais pas envie, je crois. Hein, parce que... Et elle m'a dit, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle demandait pardon pour le mal qu'elle nous avait fait à tous les deux. Mais en même temps, je lui ai dit, on n'a rien à lui pardonner parce qu'on s'est tous fait du mal dans l'histoire. Elle ne nous en a pas forcément fait plus qu'on lui en a fait, peut-être, je sais pas.
Ça reste un échec pour vous, Monique ?
Oui, mais je pense que l'échec aurait été encore plus grand si elle était restée, quoi.
On ose imaginer, en effet, les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir pour la suite, hein, quand cette greffe d'amour ne se fait pas.
Moi, je suis allée quand même après à la DAS les prévenir que ça avait échoué et que la jeune fille était repartie. Et la psychologue que j'ai rencontrée m'a dit, écoutez, peut-être que c'était la meilleure solution parce que sinon, ça risquait de faire vraiment éclater la cellule familiale.
Et d'éclater aussi le lien que vous aviez fait si fort avec Clément. Jean-Philippe, on continue à parler d'adoption avec vous. Venez nous rejoindre. Je vous vois plonger dans votre, oui, dans votre tablette depuis tout à l'heure.
Oui, oui, parce que ben, tous les candidats à l'adoption, le premier, je pense que la première étape, c'est d'aller voir sur Internet, aller voir déjà si on peut adopter, parce qu'il y a, il faut remplir des...
Il faut rentrer dans les cases. Les critères, ces cases, elles sont nombreuses.
Alors, ben, tout d'abord, il faut savoir si on veut adopter seul ou ensemble. Quand on est célibataire, la question ne se pose pas, on peut adopter célibataire. Quand on vit à deux, on ne peut adopter ensemble que si on est marié. Si on n'est paxé, on ne peut pas adopter ensemble. Non, il faut être marié.
Fanny ? Sinon, ça fait une double filiation et ça n'existe pas en droit français.
En France, 80% des adoptions, on est à peu près à 1000 adoptions. Il y en a de moins en moins parce que, justement, les restrictions sont de plus en plus fortes. 1000 par an, 8 sur 10, 8 enfants adoptés viennent d'un pays étranger. Oui. Seulement 2 sur 10 viennent de France.
D'accord. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants adoptables en France, c'est pour ça.
Actuellement, il y a quand même 30 000 familles en France qui attendent, qui ont l'agrément et qui attendent. Tout à l'heure, on parlait de révocation. Enfin, vous, l'adoption n'était pas encore prononcée.
Non, n'était pas prononcée. Non, non, je suis allée au tribunal après dire que je renonce. Enfin,
voilà. Renoncer, ça n'est pas. Quoi.
Alors attention, parce que... En revanche, une fois que l'adoption est prononcée, elle est irrévocable si c'est une adoption plénière et elle peut être révocable pour une adoption simple en cas de faute grave. En gros, en deux mots, adoption plénière, on rompt tout lien avec la famille d'origine et on intègre totalement la nouvelle famille, la famille adoptive. Adoption, c'est jusqu'à 15 ans, uniquement jusqu'à 15 ans. Au-delà de 15 ans, on passe automatiquement dans l'adoption simple, où là, en fait, on ne rompt pas le lien avec la première famille, mais on intègre l'enfant adopté dans la nouvelle famille, mais seulement la famille, on appelle ça la famille nucléaire, c'est-à-dire, en fait, le papa, la maman et les frères et sœurs. Pas les grands-parents, par exemple. Si c'est une adoption simple, il n'y a aucun lien
entre le grand-parent et l'enfant,
les cousins,
d'accord.
Etc. Et là, on peut révoquer.
Et les choses sont bien cadrées. Merci Jean-Philippe, mais ça fait partie peut-être des questions que les gens, en effet, vont se poser lors de notre séquence questions-réponses. Fanny, on va se rapprocher de notre public. Jean-Philippe.
Oui, beaucoup de questions sur, sur l'adoption. Des questions notamment sur notre page Facebook avec Laura qui nous dit « Je viens d'adopter un bébé, il me ressemble ». Voilà, coup de chance. Alors, suis-je obligée de lui révéler qu'il a été adopté ?
Ah ben oui, de toute façon.
Alors, attendez, obligée légalement. Parce que psychologiquement, évidemment, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais est-ce que légalement, il y a quelque chose qui oblige les parents adoptifs à dire les choses ?
Non, c'est fortement recommandé, mais heureusement que la loi ne va pas jusque-là en même temps. C'est vraiment de la, je dirais, de la conception que les parents se font de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants.
Nous avons également un mail de Samuel qui dit « J'ai deux enfants biologiques, ma femme et moi souhaitons adopter un petit dernier. Comment leur annoncer la nouvelle et les préparer à l'arrivée de cet enfant ?»
Il faut leur en parler. Alors ça dépend quel âge ont ces enfants-là. Je crois qu'il faut leur en parler, leur dire pourquoi. Alors d'abord pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes, ça serait la première question. Et ensuite peut-être qu'ils ont dépassé l'âge et qu'ils souhaitent adopter un enfant. Donc il faut qu'ils en parlent avec leurs enfants et qu'ils essayent de réfléchir quel sens ça a pour eux d'adopter un enfant alors qu'ils en ont déjà deux. Quel sens ça pourra avoir pour leurs enfants et comment les uns et les autres conçoivent cette histoire, c'est-à-dire quel enfant, d'où, quel âge,
pourquoi. C'est plus difficile une adoption quand il y a déjà eu des enfants biologiques ?
Pas forcément. J'ai vu des histoires très jolies, j'ai envie de dire, et puis des histoires très compliquées. Donc, c'est toujours la même chose, ça dépend du projet vraiment des parents, qui devient là quand même un projet de famille, même si on ne demande pas à ses enfants la permission d'en avoir d'autres. Donc, mais c'est quand même un projet familial.
Il faut les impliquer.
Il faut les impliquer, je dirais en fonction de leur âge. En même temps, hein, soyons quand même prudents.
Et plus largement, avec le reste de la famille, avec l'entourage, les proches, est-ce qu'on doit préparer à l'arrivée d'un enfant
Non, je ne pense pas tout de suite. Alors moi, ce que je vois, parce que je participe à l'agrément, à l'évaluation dans l'agrément, je vois souvent les couples ou les candidats préviennent leur famille. Je crois que c'est plutôt bien, parce que c'est une façon de leur dire, bah, oui, j'ai envie de...
Hein. Et préparez-vous à...
Et préparez-vous à, voilà. Mais peut-être pas forcément au-delà, mais parce qu'ils n'ont pas non plus envie qu'on les questionne trop en leur demandant alors t'en es où, etc.
Qu'est-ce que vous leur demandez à ces familles quand vous dites que vous participez à
l'évaluation.
À l'évaluation. Déjà, ce mot est un peu horrible. Hein. L'évaluation.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas se cacher. C'est une évaluation, ce qu'on appelle, c'est un mot encore pire, les capacités parentales.
On évalue les capacités parentales.
Oui, on essaye, soyons modestes. Hein, je veux dire. Donc, ces couples ou ces parents ou ces célibataires qui viennent à l'adoption, ils vont avoir un enfant qui est déjà né, qui a eu une histoire quand même très particulière parce qu'il est né et il a été abandonné. Pour certains d'entre eux, ils ont été maltraités ou carencés. Et donc, ils vont avoir un enfant avec une histoire particulière. Et même si on est des gens très humains, très bons, c'est pas donné à tout le monde d'accueillir un enfant qui a comme ça une blessure, une cicatrice et des choses probablement difficile à vivre.
Ça demande quoi comme capacité, alors ?
Beaucoup de tolérance, beaucoup de patience, savoir vraiment ce qu'on souhaite soi-même. C'est-à-dire que quand on évalue, quand on questionne les parents, c'est également c'est quoi pour vous un enfant ? C'est quoi les besoins d'un enfant ? C'est quoi les besoins d'un enfant adopté ? Comment il va s'inclure dans votre famille ? Comment vous vous imaginez avec ? Qu'est-ce que vous projetez sur lui ? C'est-à-dire, il y a de multiples questions. C'est quoi être un papa ou une maman ? Comment c'était-vous avec votre papa et votre maman ?
Jean-Philippe.
On a beaucoup de questions sur un point de détail, mais qui, à mon avis, ne va pas être un point de détail pour vous. Faut-il garder le prénom d'origine d'un enfant adopté ?
Ah, c'est une très jolie question. Ben voilà, ça fait partie des questions que je pose aux gens qui viennent me voir. Moi, je n'ai pas d'a priori. Je vais vous dire ce qui se dit classiquement. C'est qu'un enfant qui a été appelé par un prénom pendant un certain nombre d'années, c'est difficile de le lui retirer d'emblée. Alors, souvent, ce que font les parents, c'est qu'ils le laissent en second et ils lui donnent un prénom qu'ils ont choisi parce que c'est aussi être parent que de donner un prénom. Voilà. Y a des parents, moi, j'ai vu, qui le francisaient, entre guillemets, par exemple, ou faisaient un prénom composé. Parce que pour les enfants devenus adolescents, il y a aussi tout un jeu qui se passe autour du prénom. Hein. Moi, j'ai vu comme ça plein de choses très drôles avec des ados qui se faisaient appeler par leur prénom donné par leurs parents à la maison et qui, au collège ou au lycée, se faisaient appeler par leur prénom d'origine.
Et d'une façon plus globale, est-ce que vous conseillez justement les retours dans le pays, retours dans la culture ? Qu'est-ce qu'on doit garder ? Est-ce qu'il y a une proportion de culture d'origine, de culture adolescente ?
Moi, je pense que ça appartient aux enfants. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important, c'est que les parents, ils aient, ils aient à la bonne le pays d'origine de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils aient de l'estime pour ce pays, qu'ils ne le considèrent pas comme un pays au-dessous de tout, qui fait partir ses enfants. Hein. Après... je crois qu'il faut avoir le respect de l'origine de son enfant. Je crois que c'est important aussi. C'est-à-dire que si lui questionne, il doit pouvoir effectivement entendre des réponses positives sur son pays, mais pas non plus idéaliser, parce qu'il pourrait se demander pourquoi ils m'ont fait partir. Si c'était tellement merveilleux, j'aurais pu y rester. Et le retour dans le pays d'origine, pour moi, c'est vraiment à la demande des jeunes, ainsi que la recherche des parents de naissance. Ça leur appartient. Les parents sont juste les passeurs.
Bien sûr, vous avez très certainement d'autres questions ou d'autres témoignages sur ce sujet de l'adoption. Alors, vous nous retrouvez même après, bien sûr, la fin de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook tout d'abord, sur la page de Ça commence aujourd'hui et sur Twitter avec le hashtag CCA.
C'est la fin de cette émission. Merci infiniment d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous. Vous faites un gros bisou à Camilo.
Pas de souci.
Je vous souhaite aussi, Maïli, un très beau voyage l'année prochaine avec votre maman à la recherche de votre histoire. Et longue vie à vous deux aussi. Merci pour d'avoir partagé ces histoires. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe.
Merci Faustine.
Tout de suite, vous allez retrouver Daphné Burki et toute sa bande dans Je t'aime, etc. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre conjoint vous a quitté et vous êtes en plein chagrin d'amour. Suite à une rupture amoureuse, vous avez tout essayé pour tenter de récupérer votre ex. Après avoir été quitté par votre conjoint, vous vous êtes vengé. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par téléphone au 01 53 84 34 20, par mail ou sur le Facebook de notre émission.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.